Morning Edition from NPR News.
Let me keep some people housey.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde en Pologne, ce soir, dont on va essayer de comprendre ce qu'elle a secoué vraiment en Europe, si elle est au bord du Polexit et si en tout cas un tournant s'est produit avec cette affaire qui court toujours entre l'Union et la Pologne. Le bruit du monde ce soir est en Albanie, l'un des pays aux abords duquel la Méditerranée est la plus sale et vous verrez que tout commence dans un fleuve de Tirana. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Ogeni a trouvé un tanker échoué au large des côtes du Yémen, des caméras dans tous les blocs opératoires en Corée du Sud et vous comprendrez pourquoi. Et puis un prêtre espagnol que je vous laisse découvrir dans un petit instant. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec la journée du coming out, c'était hier. 18h55, Le monde d'après de Claude Guibal et cette question, que se passe-t-il autour de la patronne du FMI accusée de favoritisme? À côté de quoi on est peut-être passé au FMI, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sébastien Platon.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste de droit constitutionnel européen. À votre avis, Sébastien Platon, que veulent les Polonais? Est-ce que dans cette épreuve de force avec l'Union, la Pologne a voulu mettre un peu la main sur le fourneau pour voir si c'était chaud? Est-ce qu'elle a sous-estimé la montée de colère européenne qui avait rarement été aussi importante?
On verra si elle a sous-estimé la montée de colère. Ce que la Pologne a véritablement voulu faire, c'est non pas initier une sortie de l'Union européenne, on parle beaucoup de Polexit et on agite la perspective d'une sortie de l'Union européenne, mais on n'en est pas là et très clairement le gouvernement sait qu'une très très large majorité de l'opinion est favorable à l'appartenance à l'Union européenne, mais ce que voudrait le gouvernement polonais, c'est une appartenance un peu à la carte, c'est-à-dire choisir ce qui lui plaît et rejeter le reste. Et en l'occurrence, ce qui lui déplaît, c'est en particulier une jurisprudence de la Cour de justice qui s'est développée il y a depuis quelques années et en vertu de laquelle les États n'ont pas le droit de miner l'indépendance de leurs juges. Et comme c'est précisément ce que fait le gouvernement depuis quelques années, ça ne leur plaît guère.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous, puis on viendra directement dans ce que ça veut dire, effectivement, mais est-ce que vous avez le sentiment que si la Pologne a doucement reculé, alors on verra jusqu'à quel point, mais si elle a doucement reculé, est-ce que c'est parce qu'elle a craint qu'on bloque les crédits et qu'on en arrive à un vrai moment de rupture, ou c'est parce que les manifestants de dimanche ont fait craindre au PiS, le parti au pouvoir, un très mauvais vent politique? Donc il y a une véritable hypocrisie là-dedans, il n'y a pas plus d'adhésion aujourd'hui qu'il y en avait avant, non? Qu'est-ce que vous en dites?
Là aussi, c'est difficile à dire. Je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y a peut-être un peu de tout ça. Alors, les manifestations, de toute façon, elles étaient prévisibles, parce que, comme je le disais, il y a quand même une grande partie de la population
plus
polonaise.
Plus de 80%,
qui est très
favorable. En effet.
Plus de 80% favorable à l'adhésion, à l'appartenance à l'Union européenne, et une large partie qui est très favorable à l'état de droit, à l'indépendance de la justice et à tout ce que ce gouvernement menace. Et il y a aussi, effectivement, un risque de une crainte du bâton budgétaire, à savoir que l'Union européenne pourrait soit refuser d'approuver le plan national polonais au titre du plan de relance post-Covid, soit activer le mécanisme de conditionnalité état de droit qui lui permettrait de suspendre au cas par cas certains versements du fonds de relance et d'autres fonds structurels européens, comme les fonds de politique régionale, la politique agricole commune, ce genre de choses, si jamais la Commission venait à estimer que l'État de droit n'est pas garanti en Pologne.
Ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, Sébastien Platon, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a ce bras de fer, on va dire, entre la Pologne et l'Union. Et au fond, à chaque fois, et ça avait d'ailleurs été le cas également pour la Hongrie, on n'a jamais été au-delà, ou pas bien loin, au-delà de menaces, et puis pas plus. Pourquoi cette fois, c'est plus grave? Est-ce que cette fois, c'est plus grave? Ou est-ce qu'on va finir par se rendre compte que, de toute façon, on a les mains liées, et on ne peut finalement pas grand-chose?
C'est plus grave, c'est surtout différent. C'est-à-dire que depuis quelques années entre la Pologne et l'Union européenne, il y a un certain nombre d'escarmouches qui, comme je disais, en ce qui concerne la Pologne, la Hongrie c'est un peu différent. Mais la Pologne c'est essentiellement sur des questions d'indépendance de la justice, de mise au pas du tribunal constitutionnel polonais, celui-là même qui a rendu la décision des tentatives de mise au pas de la Cour suprême et d'autres juridictions. Mmh. Mais jusque-là, le gouvernement polonais avait toujours fait mine d'accepter les arrêts de la Cour de justice. À chaque fois que la Pologne était condamnée par la Cour de justice, au moins en apparence, et au moins de façon formelle et minimale, le gouvernement retirait les législations litigieuses. Mmh. Là, finalement, il se donne les moyens de dire « Bon, bah, s'il y a vraiment des arrêts qui ne me plaisent pas, je peux les ignorer. Mmh. » Et donc, on change un peu de registre et on monte un peu en puissance. Je dirais que c'est une escalade de plus dans un bras de fer qui dure depuis... en ce qui concerne la Pologne, depuis 2015.
Et alors, est-ce que justement, je parlais de tournant tout à l'heure, est-ce que ça veut dire ça quand même, y compris pour nous, à un moment, nous les Européens, à un moment, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds trop longtemps et aussi fortement, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous ne pouvons pas accepter. Est-ce qu'il y a aussi un tournant de ce côté-là, aussi de la part de la réponse européenne, à votre avis ?
Probablement. Là aussi, il faudra voir quelle réponse développe l'Union européenne très concrètement. Mmh. Mais effectivement, on atteint ici les fondements même du vivre ensemble. Mmh. Et puis, c'est vraiment un caillou de plus dans une chaussure qui en était déjà bien garnie. Il y a déjà eu donc les atteintes à l'état de droit. Il y a déjà eu, il ne faut pas l'oublier non plus, les résolutions anti-LGBT dans en nombre de villes polonaises. Mmh. Donc, tout ça finalement s'accumule et je dirais qu'effectivement les Européens commencent à perdre patience. Le Parlement européen perd patience depuis déjà longtemps et je pense que même à présent les autres gouvernements commence aussi à perdre patience.
Alors sur les zones LGBT, c'est intéressant ce que vous dites, Sébastien Platon, parce que certaines communes ont reculé précisément parce que les menaces étaient là et qu'ils jugeaient qu'elles étaient suffisamment crédibles. Moi, je voudrais que vous nous redisiez et comprendre pourquoi tout cela ne met pas de fait la Pologne sur le chemin du Polexit, puisque de toute façon, visiblement, elle ne transigera pas, elle non plus, sur ses propres valeurs, parce que c'est vraiment dans ce domaine-là que l'on se place. Donc pourquoi ça ne la met pas de fait sur le chemin du Polexit ?
Ça dépend ce qu'on entend par Polexit. Polexit, c'est un mot qui est évidemment construit par analogie avec le Brexit, qui est une sortie formelle de l'Union européenne, formelle et organisée, puisqu'il y a dans les traités un article 50 qui organise la façon dont un État sort de l'Union européenne s'il le désire. L'Union européenne n'est pas une prison. Mmh. Et la première étape formelle de cette procédure, elle-même formelle, c'est une notification de décision. C'est-à-dire que l'État qui décide de sortir de l'Union européenne, notifie son intention au Conseil européen. Cette notification doit être non équivoque. Effectivement, certains ont pu dire que ce genre de décision équivalait à une décision de sortie, mais elle ne présente pas le caractère d'univocité, de non-équivocité qu'exige l'article 50. Donc on ne peut pas parler de Polexit au sens formel, puisqu'il n'y a pas eu d'activation de la procédure de sortie. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que au terme de la procédure...
J'espère qu'on n'a pas perdu.
L'article 50 nous dit aussi les traités cessent d'être applicables à l'État membre en question. Or, précisément, le tribunal constitutionnel polonais a fait un peu ça en partie. Il a décidé unilatéralement qu'une partie des traités ne s'appliquerait plus à la Pologne.
Mais Monsieur Platon, je comprends fort bien ce que vous nous dites et vous avez bien raison. Il y a par ailleurs la différence avec le Brexit, c'est qu'il y a eu un souhait qui vient de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni à ce moment-là, et donc l'activation d'un article 50 dont on sait très bien dans quelles conditions cet article 50 a été compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il y a quelque part un texte qui dit qu'on peut, pardon de le dire très trivialement, virer un pays quand il est en train de dépasser les bornes? Est-ce que de toute façon ça n'existe pas? Donc tant que la Pologne n'active pas elle-même quelque chose qui dit bon bah si c'est comme ça je sors, alors de toute façon il faudra faire avec.
C'est tout à fait exact. On pourrait dire rétrospectivement que c'est une lacune du droit de l'Union européenne. Il n'existe pas, en effet, de procédure d'expulsion. Ça existe dans d'autres organisations internationales, les Nations Unies par exemple, peuvent expulser, et l'ont déjà fait par le passé, un État qui renierait les valeurs communes, mais l'Union européenne n'est pas dotée d'un tel mécanisme. J'y vois la marque d'un certain optimisme, l'idée que une fois qu'un État est entré dans l'Union européenne, il ne peut que progresser vers le chemin de la démocratie, et il ne peut pas finalement régresser. La chose la plus proche qu'on a d'une procédure d'expulsion, c'est la procédure dont on a beaucoup parlé ces dernières années, de l'article 7, mm-hmm. qui permet in fine de suspendre certains droits d'un État qui violerait les valeurs de l'Union. Mais d'une part, ça n'équivaut pas à une expulsion, c'est une suspension de droits. Et d'autre part, on sait que cet article est totalement impraticable, puisque pour suspendre les droits d'un État, il faut l'unanimité des États moins l'État concerné. Or, la Hongrie et la Pologne se soutiennent mutuellement et ont probablement le soutien d'autres États de la région. Donc, cette disposition est impraticable et n'existe pas de toute façon de procédure d'expulsion.
Il y a deux choses que ça soulève, ce que vous dites, Sébastien Platon. La première, c'est que faut-il re-réfléchir à l'unanimité en Europe pour avancer mieux? Parce que l'unanimité à 6, c'est une chose. L'unanimité à 27, c'est quand même tout autre chose. Est-ce que c'est sur le tapis? Faut-il y réfléchir pour avoir précisément de meilleurs mécanismes?
Ça, c'est tout à fait exact, et vous avez raison, l'unanimité à 6, le nombre d'États où on était au tout début, en 1951-1957, c'est praticable, on est passé de 6 à 9, à 12, à 15, à 25, à 27, puis 28, puis à nouveau 27, donc effectivement, c'est parfaitement impraticable. Cependant, le gros problème, c'est que, et de toute façon, il y a déjà eu des gros progrès en matière d'unanimité, puisque à l'origine, toutes les décisions se prenaient ou presque à l'unanimité, et puis de plus en plus, on a progressé vers des formes de majorité. Et finalement, l'unanimité, aujourd'hui, elle est retranchée dans certaines zones et certains domaines particulièrement sensibles, comme par exemple la fiscalité, la défense, etc., etc. Et le problème, effectivement, on pourrait réfléchir à faire sauter le verrou de l'unanimité, mais c'est variablement possible. Dans certains domaines, les traités prévoient ce qu'on appelle une passerelle qui permet de passer de l'unanimité à la majorité sans avoir à réviser les traités. Donc c'est faisable, même si bon, le paradoxe, c'est que pour passer de l'unanimité à la majorité, il faut l'unanimité. Donc éventuellement, c'est problématique. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels, pour passer de l'unanimité à la majorité, il faut réviser les traités. Et là, c'est très difficile et personne n'en a envie.
Il y a autre chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez à juste titre que l'article 7 n'était pas possible, ne serait-ce que parce que la Hongrie, au moins elle, qui est toujours de cheville avec la Pologne, de toute façon, voterait non. Mais si on activait les mécanismes qui empêchent la Pologne de toucher l'argent du plan de relance post-Covid, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, ça dépasse les 20 milliards d'euros. Est-ce que ça veut dire que le levier de la Pologne sur d'autres autre sujet serait de dire « Ah bah attendez, moi je vote pas » et donc il ne se passe rien et la Pologne réussit à bloquer les institutions. Est-ce que c'est possible ça ?
Pas vraiment. Historiquement, ça a déjà été, ce type de levier a déjà été utilisé dans le passé par la France. Dans les années 60, on appelait ça la politique de la chaise vide, lorsque la Commission déjà ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, de passer certains domaines de l'unanimité à la majorité. Et la France, sous Charles de Gaulle, ne voulait pas de cela et donc avait décidé, pour le dire très simplement, de bouder les réunions du Conseil, ce qui avait entraîné une certaine crise diplomatique qui s'était résolue par un compromis politique sur lequel je ne reviendrai pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait vraiment envisager qu'un État refuse de participer ? Déjà, ce serait probablement à son détriment, puisque dans les décisions à la majorité qualifiée, eh bien, si l'État refuse de participer, eh bien, ce sera son problème. Et dans les décisions à l'unanimité, dans beaucoup de domaines, l'unanimité est définie comme l'unanimité des présents, en réalité, des suffrages exprimés. C'est ce qu'on appelle l'unanimité, l'abstention constructive, c'est-à-dire qu'un État qui n'est pas d'accord mais qui veut pas empêcher une décision peut décider de s'abstenir, mais ça ne bloque pas la décision. Et je pense qu'on pourrait l'appliquer par analogie à un État qui n'est pas là. Donc il n'a aucun intérêt, la Pologne n'a aucun intérêt à bouder les institutions.
Une dernière chose, dans l'agacement de certains, à la fois à la Commission et au Parlement européen, il y a un certain nombre de propositions qu'on a pu entendre, et notamment une qui disait il faut trouver un moyen et un mécanisme pour que l'argent, parce qu'il faut faire attention toujours à ne pas faire du mal au peuple quand on veut faire du mal au gouvernement, c'est un peu le hiatus, il faudrait trouver un mécanisme pour que l'argent aille non pas dans les caisses de l'État, mais directement dans les caisses de certaines municipalités, ou en tout cas directement des gens. Est-ce que là aussi, c'est un vœu pieux total? Ça n'existe pas de toute façon?
Non, c'est tout à fait possible. Il y a des tas de mécanismes qui permettent de sanctionner financièrement le gouvernement sans sanctionner les sociétés civiles. Mmh. D'abord, on peut noter que les fonds structurels sont gérés de différentes manières. Il y a notamment des différences entre gestion directe et gestion indirecte. Mmh. Donc, dans certains cas, c'est la commission qui pilote et qui donne directement les fonds aux bénéficiaires. Et dans beaucoup de cas, parce que la commission, finalement, c'est une toute petite administration, elle préfère déléguer cette charge aux États membres. On peut tout à fait considérer, on peut tout à fait envisager que la gestion se fasse de façon plus centralisée, que dans ce cas-là, la commission donne elle-même l'argent aux bénéficiaires qui en ont besoin. Mmh. Et puis, notons aussi que le mécanisme de conditionnalité état de droit qui a été adopté l'année dernière et qui permet de suspendre des fonds pour un État qui viole les principes de l'état de droit, eh bien, prévoit précisément un garde-fou pour les bénéficiaires mmh. finaux de ces fonds, puisque la réglementation dit que même lorsque les fonds sont suspendus au gouvernement, eh bien, le gouvernement, lui, doit quand même payer mmh. les bénéficiaires finaux qui avaient été approuvés, et dans ce cas-là, il doit trouver l'argent ailleurs. Donc c'est bien dans ce cas-là le gouvernement qui est puni.
Ça veut dire en tout cas que cette histoire n'est pas terminée. Sébastien Platon, merci beaucoup. Merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde en Albanie qui a le triste record du fleuve le plus pollué d'Europe. Et tout ça file, bien sûr, vers la Méditerranée. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars, Sébastien Logénie.
Un tanker pétrolier menace les côtes yéménites d'une catastrophe écologique sans précédent dans le monde.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir, Julia.
Bonsoir. Et vous verrez qu'on peut tenter de vendre des jeans et tenter de faire bouger le monde en même temps.
Eh bien, on verra ça ensemble tout à l'heure. Le monde d'après. Bonsoir, Claude Guibal.
Bonsoir. Nous, on va parler du FMI qui est bien tangué ces derniers jours. Le FMI, dont la patronne était accusée de favoritisme envers la Chine.
On voit ça ensemble dans un instant. À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Brooklyn, New York. Big Fifth, Certainty, c'est sur France Inter. Le bruit du monde ce soir est en Albanie, dont la capitale Tirana est considérée comme la quatrième ville la plus génératrice de déchets de toute la Méditerranée. C'est un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui le dit. La Méditerranée, c'est la marée plasticum, dit ce rapport. Et à Tirana, des centaines de mètres de déchets, des centaines de mètres s'entassent ainsi à l'embouchure de l'Ichum, le fleuve considéré par certaines associations environnementales comme le plus polluées d'Europe. L'ONG River Cleanup et de ses centaines de volontaires albanais comptent évidemment mettre fin à cette catastrophe écologique. Essayez en tout cas, ça va être vraiment long. Le reste, c'est Louis Seyer qui raconte.
On a des sprays odorants, on a des briquets, on a des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des canettes aussi. Donc, on a pas mal de choses. On peut trouver des CD, on peut trouver des cachets, des médicaments. On trouve du tout, en fait. On trouve des restes de chaussures. Donc, il y a pas mal de choses.
Ils s'entassent sur des centaines de mètres et ils ont littéralement fait disparaître la plage de sable. À l'embouchure du fleuve Ishem, dans le centre de l'Albanie, des tonnes de déchets en tout genre s'étalent le long de la côte adriatique. Des images terribles qui désolent Renato, un jeune professeur de français de Tirana.
Ça me touche beaucoup en fait et ça me fait se sentir mal parce que je pense, tu vois, nous, les Albanais, on est peu nombreux et on produit tellement de déchets qu'on ne recycle pas, donc évidemment ça me touche. Et je prends conscience qu'il faut faire il faut toujours faire mieux pour régler ce problème et il faut que le gouvernement et la société fassent beaucoup mieux.
Pas besoin de faire des heures de route pour se rendre au bord de cet estuaire, l'un des plus pollués de Méditerranée. Les plages très fréquentées du littoral albanais se trouvent à seulement quelques kilomètres. Cette décharge incontrôlée, nauséabonde et dangereuse pour la santé humaine, Saïmir la côtoie tous les jours. Ce père de famille de 40 ans habite sur les collines, tout proche du fleuve Ishem.
Tous ces déchets viennent de la capitale Tirana. Tous. En été, on ne peut pas tenir. C'est difficile de rester ici à cause de l'odeur. Parce que le fleuve est saturé en déchets, mais aussi à cause des eaux usées.
Le fleuve Ishem déverserait chaque année quelques 700 000 kilos de déchets plastiques dans la mer Adriatique. Une pollution humaine astronomique qui fait de ce fleuve de seulement 70 km de long le plus pollué d'Europe. Kevin De Backer travaille pour l'ONG River Cleanup.
C'est incroyable qu'il y ait autant de pollution dans un pays qui est aussi proche de la Belgique et de la France, que cela puisse exister en Europe. Les études scientifiques montrent que les estomacs des oiseaux et des poissons sont remplis de petites particules de plastique qu'ils ont avalées.
Comme dans d'autres pays des Balkans, la gestion des déchets reste catastrophique en Albanie. Influence des réseaux criminels, corruption et manque de volonté politique, les déchets finissent bien souvent leur course dans la mer Adriatique. Face à ce fléau, la jeunesse albanaise semble décidée à changer les choses. Armés de gants et de sacs poubelles, Erissa et Artens ont ainsi répondu à l'appel de River Cleanup Albania pour nettoyer le fleuve Ishem.
Je pense qu'on est déjà à 15 sacs poubelles.
On a fait des groupes de 2 bénévoles et le but c'est de nettoyer toute la zone. Jusqu'à maintenant, on a plutôt fait du bon travail.
C'est très bien qu'autant de gens donnent d'eux-mêmes pour notre pays. Mais je suis vraiment déçue que ce soit une organisation étrangère qui soit à l'origine de cette initiative. Parce qu'il faudrait que nous, les Albanais, on s'engage bien plus pour l'environnement.
En quelques heures, des centaines de sacs sont remplis de déchets plastiques, prêts à être envoyés vers les usines de recyclage. Nettoyer, mais aussi sensibiliser dans les écoles et pousser les décideurs politiques à passer enfin à l'action, c'est l'objectif des volontaires albanais comme Briseida Lala.
Ici, c'est l'un des plus beaux endroits de la côte albanaise, du cap de Rodoni, là-bas, jusqu'à la lagune de Patok, derrière nous. Si tous les élus locaux et les responsables politiques faisaient preuve de bonne volonté, mais aussi que les gens étaient plus responsables dans la gestion de leurs propres déchets, je suis persuadée que l'on pourrait arriver à une gestion bien plus saine de cette région.
Chaque année, entre 8 et 10 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans de la planète. Surexploitée et victime de la pollution aux microplastiques, la mer Méditerranée est ainsi l'un des écosystèmes les plus pollués de la planète.
La marée plasticum. Et merci à Louis Seyer pour le reportage. Le bruit du monde, c'est aussi l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeny.
Yeah.
Et Sébastien, on va rester dans le domaine de la pollution écologique. Nous sommes dans le port d'Al-Udeida, c'est au Yémen, menacé par une véritable bombe écologique.
Oui, cette menace écologique sans précédent porte un nom, le FSO Safer, un gigantesque tanker pétrolier de 360 mètres de long, échoué tel un vaisseau fantôme en pleine mer Rouge, au large donc des côtes du Yémen, et à bord dans ses soutes l'équivalent d'un million de barils de pétrole brut, quatre fois l'Exxon Valdez qui avait échoué au large de l'Alaska en 1989. L'histoire de ce navire des années 70 est connue depuis longtemps, l'objet de multiples reportages. Là, c'est une plateforme de reportage yéménite sur l'environnement qui raconte l'abandon donc du FSO Safer au début de la guerre civile au Yémen, la coque rongée par la rouille, irréparable, à la merci d'une fuite ou même d'une explosion. La menace que représente ce bateau fait régulièrement l'objet de communiqués inquiets de l'ONU, de rapports d'ONG, de revues scientifiques. Et le dernier en date, publié hier dans une revue spécialisée, est encore pire que les précédents. En cas de fuite, 8 millions de Yéménites seraient privés d'eau courante, la totalité des stocks de pêche détruits en 3 semaines, le commerce maritime mondial durement affecté, 10% des bateaux de commerce passent en effet par le golfe d'Aden, et c'est sans compter avec les ravages environnementaux dans tout le pays dans tous les pays de la région, Arabie Saoudite, Érythrée et Djibouti. Le dossier est sur la table des Nations Unies qui demande aux rebelles houthis de pouvoir accéder au navire en vain. Ce qui bloque, c'est la valeur de la cargaison, 40 millions de dollars que les rebelles revendiquent, tout comme le gouvernement yéménite. Les négociations sont totalement au point mort à l'image de ce pays dévasté par la guerre civile depuis 7 ans.
Allez, direction la Corée du Sud où les blocs opératoires seront tous désormais équipés de caméras.
C'est l'aboutissement d'un débat qui aura agité le pays pendant plus de 6 ans, mais ça y est, c'est fait désormais, une loi a été votée le mois dernier. Les chaînes de télé sud-coréennes ont largement fait état de ce texte législatif. D'ici 2 ans, donc, tous les hôpitaux sud-coréens seront obligés d'équiper leurs salles d'opération de systèmes de vidéosurveillance. Chaque patient pourra exiger que son opération soit filmée. Cette loi ne vient pas de nulle part. Elle répond à une grande attente, en fait, des Sud-Coréens qui sont 98% à l'approuver. Ce pays de 51 millions d'habitants, en effet, était secoué par plusieurs scandales médicaux ces dernières années. Il y a ce patient tombé dans le coma, opéré non pas par un chirurgien, mais par un commercial venu vendre du matériel médical. Il y a ce chirurgien fêtant son propre anniversaire en pleine salle d'opération, ou encore de nombreux attouchements sexuels sur des patients sous anesthésie. On l'a dit, cette loi bénéficie d'un rare consensus. Citoyens, députés, commission des droits de l'homme approuvent le texte. Seuls les médecins eux-mêmes s'y opposent et dénoncent des atteintes aux droits des individus, aux droits des travailleurs et à la démocratie. La Cour constitutionnelle sud-coréenne a été saisie du dossier.
Allez, on termine avec tout autre chose, l'histoire d'un prêtre espagnol qui démissionne par amour.
Oui, l'histoire a fait grand bruit chez nos voisins de l'autre côté des Pyrénées, à la fois par le profil du prêtre en question et par celle qu'il a choisi d'aimer. Remontons le fil quelques années en arrière. On entend là Javier Novel, 41 ans, évêque de Solsona en Catalogne. C'était il y a 8 ans. À l'époque, c'est un jeune religieux connu pour ses positions ultra-conservatrices. L'avortement est pour lui l'un des plus grands génocides de l'histoire. Il défend les thérapies de conversion pour les homosexuels, n'hésite pas à chasser de son église les filles aux jupes trop courtes et on lui prête même des pratiques d'exorciste à ses heures perdues. Alors, quand en août dernier, Javier Novel annonce le renoncement à son office, sa démission pour raison strictement personnel, dit-il, eh bien les rumeurs vont bon train. On imagine qu'il est surtout poussé vers la sortie par le Vatican pour ses positions trop rétrogrades. Mais il n'en est rien. Si Javier Novel fait tomber la soutane, c'est par amour et pas pour n'importe qui. L'élu de son cœur s'appelle Silvia Caballol, psychologue, 14 ans de moins que lui, divorcée, mère de 2 enfants et surtout, Fabienne, écrivaine de romans érotiques très crus, mêlant sexe et religion, comme cet opus très sataniste, dont le titre est le suivant, L'enfer dans la luxure de Gabriel. Les anciens proches du prêtre s'en sont restés bouche bée, comme nous d'ailleurs. Certains prêtres demandent qu'il soit exorcisé afin de le guérir, disent-ils, de cette subjugation démoniaque.
Mais oui, va des rétros, Satanas, on adore cette histoire, Sébastien. Merci beaucoup, à demain. Vous partez avec David Bowie. Ne vous réjouissez pas trop vite, c'est une version allemande de Heroes. Un peu bizarre, mais ça reste une version de Heroes.
Du könntest schwimmen, die Delfine ist schön. gibt uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Heroes de David Bowie, version allemande, remix de 89 pour accueillir, mesdames, messieurs et autres genres, Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par la campagne de la semaine.
Parlez fort, aimez-vous plus fort, c'est par ces mots que Lévis s'associe à la journée internationale du coming out. Vous savez, ce moment clé, ce point de bascule où femmes et hommes, homosexuels, gays, bi ou trans, finissent par dire qui ils sont, qui ils aiment et que c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Dans ce film, ils sont 8 Européens, tous issus de milieux, de cultures, de pays différents. Vous verrez, vous entendrez par exemple une photographe hollandaise, un mannequin allemand, un militant polonais qui tous racontent et la peur juste avant et l'immense soulagement ressenti juste après.
J'ai fait mon coming out à ma mère, ma sœur, mon frère, sur Internet. Mon coming out a changé sa vie. J'avais tellement peur qu'il ne m'accepte pas comme je suis. J'étais terrifiée. J'étais fatiguée de ne pas être qui je suis vraiment. Je ne pouvais plus le cacher. On vit dans une société qui manque de diversité, d'égalité, de justice. C'est important de faire son coming out aux personnes qui comptent pour soi. Crois en toi. Tu n'es pas fou. C'est beau, c'est incroyable. C'est important pour toi.
Au son, c'est joli, à l'image c'est même beau, bien filmé, puissant et je dirais enthousiasmant. Fabienne, c'est rare qu'une entreprise de cette envergure s'engage autant pour la cause LGBT. Alors sa frappe est assez fort, il fallait faire ce film, explique la marque. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts, parce qu'apprendre c'est comprendre. Ça peut paraître un peu emphatique dit comme ça, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'à ce jour, dans 69 pays au monde, l'homosexualité reste illégale, un délit, voire un crime passible de la peine de mort pour 11 d'entre eux.
Et Julia, c'était la journée internationale du coming out donc hier, mais aussi la journée internationale des droits des filles.
Mais à croire que derrière cette coïncidence de calendrier se nicherait peut-être une convergence des luttes, allez savoir. En tout cas, pourquoi une journée pour les droits des filles ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, être une fille, c'est au choix ou tout ça à la fois. Le risque d'être marié de force, c'est ce qui arrive à 12 millions de filles chaque année dans le monde, d'après l'ONU. Et on monte à 200 millions quand on parle de victimes de mutilations sexuelles. Ça, c'est d'après l'UNICEF. Quand elles sont une sur cinq, au moins, à subir des violences sexuelles enfants. Enfin, quand on le sait, quand elles peuvent grandir assez pour en parler, parce que naître de sexe féminin, c'est surtout risquer de disparaître. Aujourd'hui, dans le monde, 23 millions de filles manquent à l'appel.
Alors oui, mais ça bouge, enfin ça va bouger, en tout cas on l'espère, et ça c'est votre MeToo de la semaine.
La bourrasque, née il y a 3 ans, ne semble pas prête de s'arrêter. Décidément, elle touche désormais le monde du football. Aux États-Unis, ça souffle. Au Venezuela, ça tangue. En Australie, ça tempête. Une à une, les joueuses des équipes nationales font corps, prenant position dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ça y est, elles parlent et elles accusent. Dans le viseur des entraîneurs, la plupart du temps. Pour certaines, c'était des propos graveleux. Pour d'autres, du chantage, des menaces, du harcèlement, voire des agressions sexuelles, parfois même quand elles étaient mineures. Alors on va se dire, encore une fois, que la parole se libère, et comme chaque fois, on va se tromper, parce que les victimes ont toujours parlé, ont toujours tenté de le faire. Le vrai changement, la vraie libération, ce sera celle de l'écoute qui semble tout de même doucement se faire devant le tollé provoqué par les déclarations de leurs joueuses. Les 3 fédérations, australiennes, américaines, vénézuéliennes, ont promis d'ouvrir des enquêtes. Eh ben, on va dire que c'est un début, et que là, moi, bon, ben, pour le coup, c'est la fin.
Eh ben oui, mais vous revenez quand même, et ce sera mardi prochain. Julia Foyce dans Un jour dans le monde. On vous a entendu de loin dire, j'espère bien, Julia. Allez, je vous embrasse, à mardi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Claude Guibal. Ce soir, Claude, vous nous parlez d'une guerre froide, réellement, à la tête des institutions économiques internationales. Ça s'est joué à peu de choses, mais l'économie mondiale est passée pas loin d'un énorme séisme hier soir. Racontez-nous ça.
Oui, c'est vraiment ce qui se serait passé si le FMI, hier, n'avait pas réaffirmé sa confiance envers sa patronne, Kristalina Georgieva. Elle a en effet failli perdre sa place après avoir été accusée de favoritisme envers la Chine lors de son précédent poste à la Banque mondiale.
Donc expliquez-nous dans le détail.
Alors, on revient en arrière, on est en 2018. Kristalina Georgieva, à cette époque, est alors numéro 2 de la Banque mondiale, vénérable institution internationale financière issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui publie chaque année un rapport qui s'appelle le Doing Business, en gros, faire des affaires. Chaque année, ce rapport classe les pays selon leur état de santé économique. C'est une sorte de carte de visite, si vous voulez, pour les investisseurs qui savent ainsi s'ils doivent ou pas investir dans tel ou tel pays en fonction de son potentiel et de sa stabilité économique. Le Doing Business n'est pas un détail, il sert aussi de repère pour établir les taux auxquels les États peuvent emprunter. Alors, c'est dire l'importance de cette publication. On imagine bien d'ailleurs la colère de la France il y a quelques années quand elle s'est vue dépassée par la Jamaïque à cause, effectivement, du système de notation utilisé. Parce que, écoutez bien, ce qui compte, en fait, les pays qui obtiennent les meilleures notes, et donc le meilleur rang, ce sont ceux qui appliquent les réformes préconisées par le FMI. Et le classement, à l'inverse, descend pour ceux qui maintiennent, par exemple, un peu trop de subventions et d'amortisseurs sociaux.
Donc ça veut dire une vision politique ultralibérale, c'est ça que
voilà,
ça veut dire.
Très ultralibérale, très washingtonienne, même on dira, et pour cause, puisque les États-Unis sont les premiers contributeurs de la Banque mondiale, tout juste suivis par le Japon. Or, en cette année 2018, donc je vous parlais, donc, les caisses de la Banque mondiale ne sont pas très bonnes et l'institution aurait bien aimé que la Chine, deuxième économie mondiale, augmente sa quote-part au sein de l'institution. Petit problème, les indicateurs de la Banque mondiale ne lui sont pas très favorables dans le Doing Business Report. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un subit changement de calcul permet alors cette année-là à Pékin de gagner 7 places, passant de la 85e à la 78e place. Un changement de traitement de données qui aurait été impulsé sous la pression de Kristalina Georgieva. Et c'est ce qu'assurent en tout cas ses détracteurs. Or, en 2018, rappelez-vous Fabienne, c'est Donald Trump qui est à la tête des États-Unis. La guerre économique entre Washington et Pékin fait rage. Et ce classement positif de la Chine déplaît fortement à la Maison-Blanche. Le comité d'éthique de la Banque mondiale décide alors d'une enquête. Elle est confiée à un cabinet d'avocats américain. Et ce sont les conclusions de cette enquête qui ont été analysées hier par le FMI.
Donc le FMI, Kristalina Georgieva est devenue la présidente.
Oui, parce que le FMI, donc vous savez, c'est l'autre grande institution financière, elle aussi issue de la conférence de Bretton Woods, qui en 1944, rappelez-vous Fabienne, a jeté les bases de l'économie mondiale de l'après-guerre. Alors depuis cette époque, traditionnellement, la Banque mondiale est dirigée par un Américain, le FMI par un Européen, en l'occurrence une Européenne, puisque Kristalina Georgieva a succédé à Christine Lagarde. Alors, voir Kristalina Georgieva nommée à ce poste, après la polémique du rapport Doing Business, a pété du goût de tout le monde, parce que son profil a fait tiquer à Washington, pensez donc. Elle, la Bulgare, née dans le bloc de l'Est, donc, elle a travaillé en Russie, elle parle russe, elle vient d'un pays émergent, bref, elle n'est pas vraiment, si vous voulez, dans les clous. Économiste réputée, soutenue par l'Union européenne et l'Afrique, elle a pourtant déjà marqué le FMI par son action, notamment en faveur de l'environnement, puisqu'elle entend en faire un pionnier dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il faut savoir aussi que dans le contexte du Covid, eh bien, Kristalina Georgieva a aussi réussi à convaincre les pays membres d'augmenter les réserves du FMI pour aider les pays les plus vulnérables face à la pandémie. Alors, les accusations qui la visaient ont déchiré le FMI, qui a pourtant fini par conclure hier à l'absence de preuves concluantes sur sa culpabilité, cela malgré les réticences du Trésor américain et du Japon, qui entendent superviser de très très près son action à venir. Pour le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui est un des principaux soutiens de Kristalina Georgieva, eh bien, elle a été tout simplement victime d'une cabale au relent de macartisme. Un bon vieux retour, et oui, à ce qu'on appelait il y a peu la chasse aux sorcières.
Le Monde d'après, signé Claude Guibal ce soir. Merci beaucoup Claude, et à très vite. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Fini. Et puis, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.